Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et une vision marché à présent grâce à Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Financière Arbevel dans Cœur de patrimoine. Merci d'être là Thibaut. Les marchés donc qui regardent nos banques centrales et qui se disent qu'ils vont peut-être, nos marchés, vivre un tournant historique, à savoir voir la Fed se faire damer le pion, j'ai envie de dire, par la Banque Centrale Européenne qui, pour une fois, prendrait l'initiative en matière de choix de politique monétaire. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ce tournant peut-être historique ?
Alors, tout d'abord, c'est un scénario qu'on embrasse hein, chez Arbevel. L'idée que la BCE va agir avant la Fed est quelque chose qui nous semble tout à fait logique, tout à fait clair. Ce qui est plus compliqué, c'est d'appeler ça historique. C'est vrai qu'il y a un côté symbolique sympa. Il ne faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne est une banque jeune, de par cette histoire européenne qui est finalement assez récente, que la Banque Européenne pré-Mario Draghi est une banque centrale européenne qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui en termes de flexibilité, d'ouverture, de vision des taux. On se souvient tous évidemment de ces magnifiques hausses de taux de 2008 et de 2011. Et depuis, en fait, des cycles de baisse de taux, il y en a eu deux, quoi. Donc pour faire un historique de « on va après les autres », c'est peut-être un peu court.
Certes.
Le dernier point,
vous connaissez les tropismes des journalistes qui veulent toujours
non,
en faire
mais
trop.
C'est pas faux, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'entends certains dire « puisque c'est jamais arrivé, ça ne doit pas arriver », je pense que si on avait un échantillon de 250 fois, je comprendrais. Là, on a un échantillon très restreint. Le deuxième truc que je voudrais ajouter, qui me semble quand même particulièrement important, c'est que, en fait, la notion de déficit public est une notion qui, à part quand on parle politique, notation, a disparu. Tout le monde s'en fout. On nous dit juste que quand la France a 5 de déficit, c'est cata, alors que quand c'est les États-Unis, quand on a 6,5, c'est parfait. Le point qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui près de 3,5 points d'écart de déficit entre la zone euro et les États-Unis, ce qui est colossal et ce qui, pour le coup, n'est jamais arrivé. Et donc, quand on a un déficit autant écarté entre les États-Unis et l'Europe que donc on surstimule l'économie américaine, en déduire que du coup, on crée plus d'inflation aux États-Unis qu'en Europe et que donc la politique monétaire américaine a vocation à être plus restrictive qu'en Europe, c'est plus la conséquence très logique d'une situation atypique que la situation atypique en elle-même. Donc, en fait, ce qui est original, ce n'est pas cette action plus rapide de l'Europe, c'est cet écart de dynamique fiscale et budgétaire entre les deux zones, qui après aura des conséquences.
Souvent, j'imagine les épargnants, quand ils parcourent les publications, les articles dans la presse économique et financière, ils peuvent aussi lire effectivement, c'est pas bien grave si la BCE dégaine la première, etc., mais que ce sera plutôt si la Fed ne venait pas à baisser, voire peut-être remontait, et que là, du coup, il y aurait une espèce de maelstrom sur la devise, etc. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qu'il faut avoir absolument en tête, ou est-ce que ce sont encore des scénario un petit peu à l'emporte-pièce ou à la mort moelle-neuve.
Je crois que ça n'a aucun sens, pour appeler un chat un chat. L'idée qu'on a défendue longtemps chez Arbevel, que le dernier pas est le plus compliqué, c'est vrai. Le dernier pas, il est plus compliqué parce qu'on pourrait sortir de cette crise avec un peu plus d'inflation qu'avant. Et quand, comme en Europe, on était avant à 1, si on est un peu plus haut, on peut très vite être à 2. Donc on n'a pas vraiment de problème. Aux États-Unis, on était plutôt à 2. Donc si on est un peu plus haut, on est quand même un peu au-dessus de l'objectif. Donc cette idée que le dernier pas est plus dur, et particulièrement aux États-Unis, c'est un scénario qui est le nôtre. En revanche, il faut sortir de la caricature qui est de dire on monte les taux ou on les baisse, les taux vont à 5 ou ils vont à 0. Ça, c'est une caricature qui n'a aucun sens. Si on veut lutter contre une inflation à 10, avec des taux entre 4,5 et 5,5 dans les diverses zones, ça a du sens. L'idée que quand cette inflation arrive entre 2 et 3, il est approprié d'aller à 4, à 3, à 2, à 2,5, à 1,50, j'en sais rien, on va le voir au fil du temps, ça paraît très logique. En revanche, l'idée qu'il faudrait aller à 6 aux États-Unis pour contrer une inflation à 3 et quelques, alors qu'on allait à 5 pour le contrer une inflation qui était quasiment à 10, bien que ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans quelque chose de moins caricatural désormais. On a besoin d'affiner ces scénarios, et à la limite même la date de la première baisse, ça n'a aucun intérêt, c'est symbolique, parce que quand tout le monde commence à bouger les flux en se disant les obligations c'est moins intéressant, on revient vers les actions, ça a des impacts. Mais il faut pas se mentir non plus, le gros du sujet aujourd'hui, c'est de sortir de cette dichotomie taux zéro, taux max.
D'accord.
Et de voir quel est le bon niveau de stabilisation qui est forcément structurellement un intermédiaire.
Vous prononciez le mot symbolique. Il y a un autre symbole que la Fed a forcément dans son viseur, c'est celle des élections, de l'élection présidentielle américaine. Et on sait qu'il y a là aussi une espèce de carcan psychologique, parce qu'il n'est pas statutaire, c'est écrit nulle part, hein, mais qui laisse entendre que la Fed ne doit pas influencer l'élection et que donc, traditionnellement, elle évite d'agir trop proche d'une élection. Du coup, là, son calendrier, il devient quand même serré, non ?
Absolument, mais vous le voyez, Cédric, la réaction aux banques centrales, le sujet est moins la baisse ou la hausse de 0,25 qui est envisagée que la grande tendance. La grande tendance, bah, elle est toujours claire, c'est plutôt à la baisse des taux, avec une détente qui pourrait être un peu plus poussée en Europe, parce qu'on est quand même plus près des objectifs qu'aux États-Unis, où on ne peut pas non plus se permettre de baisser les taux rapidement. Après qu'il y ait une phase de 3 mois où on ne peut pas le faire, comme on n'est pas dans une phase d'accélération où on doit perdre un point ou deux points, le fait de devoir zapper...
Le calendrier est peut-être moins important qu'à d'autres moments.
Ouais. Disons qu'en tout cas, il n'y a pas aux États-Unis un nombre de baisses de taux anticipées suffisamment fort pour que le fait d'avoir une ou deux dates un peu mortes soit gênant. Donc je pense que ce n'est pas vraiment un sujet. Il faut néanmoins noter qu'on a de plus en plus souvent des élections décisives entre les mi-mandats, les pleins mandats et toutes celles en Europe. Donc c'est vrai que la politique s'intègre assez souvent maintenant pour les banques centrales.
Bon.
Dur métier.
On a fait le tour de cette question, enfin le tour, on a évoqué assez longuement cette question de banque centrale. Du coup, si on regarde nos marchés, une fois qu'on s'est dit tout ça, ils sont quand même au perché. Et il y a toujours la question, notamment chez les particuliers, notamment chez les épargnants, de se dire, est-ce que c'est le moment où il faut que je vende? Est-ce que c'est encore le moment où il faut que je rentre? Enfin voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être positionné, il faut se positionner sur ces actifs-actions?
Ouais, c'est intéressant parce que le mot action, c'est un mot simple, mais en réalité, on est sur des choses qui sont très protéiformes. Hein. Si on prend les actions américaines technologiques, elles sont à des niveaux qui sont assez élevés, même si on a simplement comblé le trou de 2022. Mais beaucoup d'entre elles sont encore un peu au fond du trou. Si on regarde des secteurs comme la Chine, comme les actions de plus petite taille, on est un peu au milieu d'un champ de ruines. Donc c'est vrai que, en fait, on est sur quelque chose où le mot action a du sens, mais en même temps, il n'en a pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une rotation de thématiques, parce qu'en fait, on est dans des logiques de flux. On le voit encore avec, vous savez, ce qu'on appelait les meme stocks, c'est-à-dire ces actions que les gens jouaient un peu pour le fun, comme GameStop, hein, qui était la maison mère de Micromania. Vous voyez, qui voit son cours monter de 100%, rebaisser de 40%. Mmh. Vous voyez, le marché cherche des tendances de flux. On a eu cette ruée vers les petites et moyennes valeurs jusqu'à 2016-17. Ensuite, on est allé sur des gens qui achetaient des choses thématiques. On a eu l'émergence de tous les fonds thématiques, santé, vert, etc. Et puis, depuis 2-3 ans, c'est la ruée vers les ETF pour chasser les très grandes capitalisations et les plus gros poids de chaque indice, avec du coup les top capitalisations.
Parce que les très grandes valeurs sont devenues quasiment inabordables.
Enfin, voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, certains, quand on regarde effectivement les Hermès, qu'on regarde cette valeur américaine, on se dit on a des multiples à 30, 40, 50. Toutes ne sont pas si chères que ça. D'ailleurs, Apple, par exemple, n'est pas si chère que ça. Mais globalement, on a un marché bien valorisé. À côté de ça, on a un peu des champs de ruines. C'est le cas en Chine, c'est le cas dans les petites et moyennes valeurs. Et on voit, particulièrement vrai, là, sur 2 ou 3 semaines, où par exemple, le CAC Small, qui avait quasiment 10 points de retard sur le CAC 40, a quasiment tout récupéré. On voit que là, on a quand même l'idée que beaucoup d'investisseurs pensent que certaines grandes valeurs sont à un bon prix, sont pas problématiques, sont pas délirantes, sont pas mauvaises, mais sont à un prix où l'opportunité de court terme pour cet argent qui bouge assez vite est moins forte. Et il y a une recherche d'aller sur des valeurs moins chères.
Donc, faut aller chasser sur ces champs de ruines, justement, ou alors il faut faire de la value contre de la croissance, des défensives, enfin.
Faut probablement déjà essayer.
Ça doit être quoi le maître mot, ou les maîtres mots d'une gestion en ce moment?
Oui, le problème, c'est qu'en ce moment, on finit toujours par dire que le maître mot, c'est la sélectivité, alors qu'il n'y a pas tellement de moments où il faut tirer au hasard avant d'acheter. Donc, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que, un, il faut probablement, ce que nous a appris le marché ces dernières années, c'est la violence des écarts entre types d'actions. Entre d'un côté, par exemple, Chine et Inde, de l'autre, entre petites et moyennes valeurs et grandes valeurs, où on a vu quasiment 40% d'écart sur 3 ans. Et donc, la première chose, je pense, c'est une diversification, pour essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand les mouvements de marché vont très vite. La deuxième, c'est d'observer que les flux vont là où on pense qu'il peut y avoir des belles histoires. On voit, par exemple, que sur des stratégies vertes, hein, on a eu 4, 5, 6 EPA de belles valeurs en Europe depuis le début de l'année. Donc là, les gens peuvent se dire, il y a un secteur décoté, tout le monde commence à racheter, il faut peut-être y aller. On a eu d'autres secteurs. On peut penser aujourd'hui à l'opération qui est faite par Uber sur Delivery Hero, qui est intéressante parce que ce secteur de la livraison à des acteurs comme HelloFresh a été un peu massacré. Et donc, on voit que, en fait, il y a une traction et qu'il y a moyen d'aller plus haut. Donc, je pense que l'idée de chasser des choses qui sont assez décotées, auxquelles le marché ne s'intéressait pas et sur lesquelles il commence à s'intéresser, est quelque chose qu'on attendait depuis 1 ou 2 ans en termes de signal. Il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, entre les logiques institutionnelles, l'étincelle, les initiatives type TIBI, c'est-à-dire tout ce qui est fait par l'État en se disant, s'il y a tout le monde veut faire du non-côté, mais qu'il n'y a plus personne pour faire le relais avec les grandes valeurs, ça n'a pas de sens non plus. Et un intérêt des sociétés qui commencent à racheter. Je pense que ce segment petite valeur semble avoir un bon départ. Et dans les valeurs qui n'étaient pas dans les flux qui reviennent, la Chine a un peu le même comportement avec un marché dont plus personne ne voulait, tout le monde voulait aller vers l'Inde. Et on voit que, après un mois de janvier à moins 10, on a quand même récupéré énormément sur ce type d'actifs. Donc voilà, un marché qui est probablement en train de refaire une sorte de nouveau focus, sortir un peu de ce tout ETF pour retourner vers des choses plus stock picking. C'est peut-être aussi ce qu'on a envie de voir chez Herbevel, parce que ça nous plaît, mais on voit qu'il y a des choses assez concrètes dans la recherche des investisseurs finaux, des grandes sociétés qui veulent faire leurs emplettes à pas cher. Donc probablement quelque chose de à surveiller.
Est-ce qu'on doit se concentrer vraiment sur le monde d'action ou est-ce qu'il faut regarder aussi encore un peu, et peut-être plus singulièrement sur ce moment de changement de pied des banques centrales, le monde obligataire. On se souvient qu'au moment très opportun, chez Herbevel, vous aviez sorti des stratégies assez intéressantes en termes obligataires, avec du portage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une dernière petite fenêtre, peut-être, où il va falloir justement acter là où on est pour en bénéficier encore au moment où les taux vont bouger?
Bah oui, c'est vrai, parce que... on voit bien qu'il y a eu un moment obligataire qui a été très clair. On a lancé effectivement son que vous évoluez, qui est sur les obligations de 2028, hein, qui a collecté, qui doit faire pas loin de 400 millions, qui est géré par l'équipe de David Letellier avec Renan Blanc en particulier, que vous connaissez bien. C'est un vrai succès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de très consensuel. Les investisseurs institutionnels en ont toujours fait. Les particuliers, ceux qui peuvent se le permettre en fonction de leur support, si leur argent est dans un PEA ou dans des comptes titres, en ont fait. Et en fait, quelque part, c'est toujours aussi vrai. Il y a toujours un intérêt parce que les taux ont plutôt remonté depuis le début de l'année. Donc, qu'on soit fan de titres bien notés, moyennement notés ou de dettes privées, il y a vraiment aujourd'hui un monde obligataire qui est très fort. Mais en fait, quelque part, quand on parle d'action chinoise et de petites valeurs, en fait, on parle d'un changement par rapport à il y a 2 ou 3 mois. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'était pas intéressant et qui semble le redevenir. Sur l'obligataire, effectivement, le sentiment que ça l'a été depuis presque un an, avec des performances à 2 chiffres l'année dernière, que ça l'était depuis le début de l'année et que ça l'est à nouveau, ça reste quelque chose de très consensuel. Là où vous avez raison, Cédric, c'est qu'il est peut-être possible, pour en tout cas ceux qui sont les plus optimistes sur une action forte des banques centrales, en particulier en Europe, que cette fenêtre de tir soit peut-être un peu moins courte. Nous, on pense qu'on aura le temps parce que l'inflation baisse un peu moins vite que prévu. D'accord. Mais néanmoins, pour ceux qui ont peur que ça parte sans eux, c'est vrai que la tentation d'y aller est assez bonne, puisque de toute façon, le gros avantage sur ce type d'actif, c'est que quand vous portez du 6%, même s'il y a des risques qui vont avec, quelque part, le fait d'avoir été venu un peu trop tôt est moins grave que si vous allez sur un marché action qui bien s'apprête sûr. À rebaisser fortement. Ouais. Donc c'est vrai que oui, vous avez raison, il y a une opportunité. Après, elle commence à être bien identifiée, à durer depuis un certain temps. Alors que c'est vrai que sur d'autres classes d'actifs qu'on évoquait, entre autres par exemple les actions chinoises, on a le sentiment qu'il se passe peut-être quelque chose, même si encore aujourd'hui, hein, avec les annonces potentielles de droits de douane sur certains produits par les États-Unis, on voit que ces tensions géopolitiques envers la Chine sont peut-être déjà bien intégrées par le marché, mais sont quand même toujours bien présentes.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Prébet, financière Herbevel dans Cœur de Patrimoine. On se retrouve tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.